franceinter.com.
Merci Mathias et à la semaine prochaine.
Les liaisons heureuses
de Didier Héribon. Bonjour Didier Héribon.
Bonjour Colombe Schneck.
Didier Héribon, vous êtes universitaire, professeur de philosophie à l'université d'Amiens, spécialiste des questions de genre, d'identité, en particulier de l'homosexualité, à propos de laquelle vous avez publié « Réflexions sur la question gay ». Vous venez de publier un livre sur vos origines, « Retour à Reims » chez Fayard, où pour la première fois vous racontez votre famille, votre enfance dans un milieu ouvrier. Pourquoi ça a été si long et difficile de raconter cela ?
Parce que c'est le milieu que j'ai voulu fuir, parce que pour devenir ce que je suis devenu, c'était un milieu dont je devais me détacher, auquel je devais m'arracher. Oui, fuir, le mot n'est pas trop fort. Et aussi, évidemment, pour pouvoir vivre librement ma sexualité, qui n'était pas... je ne dis pas qu'on ne peut pas être gay en étant ouvrier, mais disons qu'à l'époque, dans les années 60, pour vivre cette sexualité et quitter l'homophobie du milieu dans lequel je vivais, j'ai voulu partir, m'installer à Paris, m'inventer une nouvelle vie. Et donc, voilà, j'ai mis à distance ce milieu et... Je dois dire qu'une fois qu'on accède à un autre milieu, j'avais un peu honte de ce milieu d'où je venais. Alors aujourd'hui, j'ai honte d'avoir eu honte. Et donc, j'ai voulu, dans ce livre, restituer mon passé et d'une certaine manière rendre hommage aux gens que j'ai voulu fuir pour essayer de comprendre pourquoi j'ai voulu les fuir et essayer d'expliquer qu'il ne s'agit pas en fait de raisons psychologiques, personnelles, individuelles. Ce n'est pas la faute de mes parents, de mon père, de ma mère, etc. S'ils ont été ce qu'ils sont, ce qu'ils ont été, pour ma mère, ce qu'elle est toujours. Mais... ça vient du poids de l'histoire qui s'est saisi d'eux au moment où ils sont nés, du monde social qui s'est imposé à eux au moment où ils sont nés, et dans les trajectoires personnelles, les vies qu'ils ont vécues, les expériences qu'ils ont traversées. Il y a un très beau texte de l'écrivain américain James Baldwin qui, après avoir fui sa famille, rentre chez lui au moment de la mort de son père. Et il dit de très belles choses sur... il dit, au fond, tout ce que je détestais chez mon père, venait du fait qu'il portait sur ses épaules le poids d'une histoire écrasante. Il était fier d'être noir, mais cette fierté d'être noir avait produit chez lui des dégâts psychologiques terribles. Et au fond, quand j'ai relu ce texte au moment où je commençais à écrire mon livre, je me suis dit, mon père était fier d'être ouvrier, mais le fait d'être ouvrier et d'appartenir à ce milieu, avec toutes les conséquences que ça avait, pas faire d'études, se trouver à l'usine dès 14 ans, etc., avait eu chez lui des conséquences, avait provoqué en lui des conséquences psychologiques assez terribles, qui ne sont donc pas de la psychologie individuelle, mais sont de la psychologie sociale, collective. Et ce que mon père était, c'était ce produit donc du lieu où il est né, du lieu social où il est né, du moment où il est né, c'est-à-dire une dizaine d'années avant la Deuxième Guerre mondiale, dans un milieu très pauvre de la ville de Reims. À 13 ans et demi, il est entré en usine. Il n'est plus jamais sorti de l'usine. Toute sa vie s'est passée à l'usine. Et donc, j'ai voulu rendre compte de ces destins sociaux qui sont imprimés comme ça dans la tête, dans le corps des individus, au moment même où ils arrivent au monde, et même on peut dire avant leur arrivée au monde, parce que c'est leur famille qui... ce que j'appelle un verdict social qui est rendu. Et il est très difficile de s'en défaire, d'échapper à ce verdict.
Vous racontez cette violence sociale, Didier Héribon. Vous êtes le premier dans votre famille à avoir eu le baccalauréat, des études. Mais vous racontez que votre mère a failli tenir ce rôle avant vous. Elle n'était pas loin d'y arriver.
Ma mère, sa mère à elle était une fille célibataire, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire qu'elle avait fauté à l'âge de 16 ans avec un garçon. À l'époque, il n'y avait pas de contraception, pas d'avortement. Son père l'avait mise à la porte parce qu'elle était enceinte. Et donc, ma grand-mère a élevé ma mère comme ça, seule, et puis avec un autre homme avec qui elle s'est installée. Et ma mère était très, très bonne élève, et bien que venant d'un milieu où on n'accédait pas aux études secondaires, ma mère était sur le point d'entrer au collège, enfin au lycée, comme on disait à l'époque. Mais la guerre est arrivée. ça a été l'exode. Il a fallu fuir la ville de Reims qui était bombardée. Et ça en était fini de l'espoir de ma mère de devenir institutrice, puisque c'est ça qu'elle voulait être. Puisque quand, après l'exode, quand sa mère à elle est revenue, elle a abandonné ses enfants à la charité, donc à l'orphelinat, pour partir travailler en Allemagne, sans doute pour survivre, parce qu'il n'y avait peut-être pas de travail ou rien à manger. Enfin, toujours, on l'a accusé ensuite d'avoir abandonné ses enfants, d'avoir une liaison avec un soldat allemand. Elle en a subi les conséquences tendues à la libération. Ce que je n'ai su que très récemment, donc je ne peux pas dire que ça ait beaucoup compté pour moi dans ma vie, mais comme ça a beaucoup compté dans la vie de ma mère, je sais que par cet intermédiaire-là, par cette médiation-là, ça a eu sans doute des conséquences très fortes dans ma vie. Ce qui est frappant, c'est que ma grand-mère était une contemporaine de Simone de Beauvoir, à peu près. Et on voit bien, ma grand-mère a voulu être une femme libre à l'époque où...
Avoir des amants,
à une époque où la contraception n'existait pas, où l'avortement pouvait conduire en prison. D'ailleurs, après la guerre, elle fera de la prison pour avoir avorté. Elle a voulu être une femme libre à une époque où, pour les femmes des milieux populaires, cette liberté existait. Dans les faits, dans la pratique, mais les risques étaient très grands et le prix à payer très très lourd. Et je peux dire que ma grand-mère a payé au prix fort. Je ne dis pas que ça n'annule pas le courage de Simone de Beauvoir d'avoir écrit le deuxième sexe et tout ce qu'elle a fait. J'ai une grande admiration pour Simone de Beauvoir, bien sûr, qui est un auteur qui a beaucoup compté pour moi. Mais il est évident que avoir été insulté pour avoir écrit le deuxième sexe n'est pas la même chose qu'avoir été chassée de chez soi par son père parce qu'elle était enceinte, comme ma grand-mère, tendue à la libération, emprisonnée parce qu'elle avait avorté, etc. Donc mon livre est aussi un livre sur les femmes, et notamment les femmes des classes populaires. Qu'est-ce que c'était qu'être une femme des classes populaires dans les années 20, dans les années 30 ou dans les années 50 et 60.
La très grande difficulté d'être libre, de faire des études. Votre mère va renoncer à ses études, va se marier très jeune, mais elle va vous pousser quand même. C'est grâce à elle que vous allez entrer au lycée, à la faculté, puisqu'elle va retourner à l'usine pour permettre de financer vos études. Mais elle vous dit cette phrase terrible, « C'est pas parce que tu vas au lycée que tu es au-dessus de nous. »
Oui, c'était...
Ma
mère a à la fois transféré sur moi ses rêves inaboutis de faire des études, de devenir une intellectuelle. Et vraiment, elle a voulu, quand j'étais bonne élève, elle a voulu que j'aille au lycée, que je continue. Elle m'a permis d'aller à l'université. Et aujourd'hui, j'ai honte, puisque quand je repense, moi, j'avais honte du milieu dans lequel je vivais, auprès de mes camarades de lycée. Alors que ma mère, en effet, est allée travailler en usine dans des conditions... on imagine mal ce que c'est que la dureté, la pénibilité du travail en usine quand on n'a pas vu ce que c'était, dans des conditions assez dures, pour que je puisse faire ces études qu'elle n'avait pas pu faire. Mais en même temps, à la fois, elle me poussait, comme selon son expression, mais en même temps, elle avait toujours une sorte de ressentiment ou le pressentiment que, en me permettant de faire des études... Elle instaurait un éloignement, une séparation qui était inévitable. Elle le savait et elle tempêtait contre cet éloignement. D'où toutes ces phrases que je rappelle, « t'es pas au-dessous de nous, pour qui tu te prends », etc. Parce qu'elle pressentait que ce qu'elle me permettait de faire signifiait aussi un éloignement inéluctable et d'une certaine manière irrévocable.
Vous racontez que vous aviez aucun accès à la culture classique, à la littérature, à la musique classique, même un certain rejet de cette culture. Et vous êtes tombé amoureux d'un de vos copains de lycée. Oui. Qui lui vous a ouvert la porte en fait d'une certaine façon.
Oui, c'est étrange parce qu'on se dit, le milieu, on se dit toujours pourquoi les gens ne lisent. Si ce goût pour la littérature, pour la culture était universel et naturel, il serait plus répandu. Or, il est vrai que il y a une disposition à ça qui est une disposition sociale, une disposition de classe, et que chez moi, on ne lisait pas de livres, il y avait pas de livres, on n'écoutait pas de musique, encore moins de musique classique. Il y avait même un rejet de tout ça, de la haute culture, disons, je mets haut entre guillemets. Et c'est parce qu'au lycée, j'ai rencontré, quand j'avais 13-14 ans, j'étais amoureux d'un de mes camarades de classe, sans nommer à cette époque-là, sans avoir conscience, aujourd'hui je peux penser comme ça, mais sans nommer ça amour entre garçons, et qui était le fils d'un professeur de l'université de Reims, et qui lui m'a donné accès à la culture et plus que tout au goût pour la culture, pour la littérature, pour le cinéma. Jean-Luc Godard était, mon Dieu, sans que j'ai vu de film de Godard, mais je ne jurais que par lui. Puis Samuel Beckett, puis Marguerite Duras, puis toute cette culture, puis Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Enfin, cette culture un peu à la fois l'avant-garde, l'intellectualité, disons, qui m'a donné ce goût pour tout ça. Je ne l'ai jamais revu après, mais je lui suis extrêmement reconnaissant de tout ça. Et en effet, je n'avais pas cette culture de base qu'avaient mes camarades de classe. Je n'avais pas lu Hugo, je n'avais pas lu Guerre et Paix, je n'avais pas lu etc., etc. Et donc, je me suis inventé le personnage de celui qui aime l'avant-garde. Donc, je me revois à 16 ans lisant Détruire, dit-elle, de Marguerite Duras ou Molloy de Beckett. Et je m'inventais un personnage comme ça de... un peu d'avant-gardiste, on me traitait de snob, j'étais content. Enfin, d'où le voilà. C'est sûr que le fait de ne pas avoir eu de culture au départ me donnait cette possibilité de m'intéresser à des formes de culture que je découvrais au moment où elles s'inventaient.
Barbara, ça vient de cette époque ?
Barbara, oui, à peu près. Disons que c'est très étrange parce que Barbara, c'était aussi la chanteuse intellectuelle, disons, et pour intellectuel, pour étudiant. Et donc, c'est pour moi aussi une manière de me dissocier du genre de variété qu'on aimait dans ma famille.
On écoutait Johnny Hallyday.
Mes frères, Johnny Hallyday, voilà. Et mon père, Bourvile, pour qui j'avais le plus grand mépris à l'époque, alors qu'aujourd'hui, je me dis que Bourvile est un très grand chanteur. Quand j'écoute une chanson de Bourvile, je me dis quel grand chanteur. Mais à l'époque, pour moi, je méprisais tout ça. Et Barbara, c'était cette mélancolie que, en tant que jeune gay, je ressentais au plus profond de moi-même. Et quand j'ai découvert par la suite que Barbara était une idole des gays, une icône gay, j'ai compris qu'en effet, si elle avait autant compté pour moi, ça a été ses chansons tristes, la solitude, le mal de vivre, etc., etc. Toute cette mélancolie. Mais il y avait aussi quelques chansons joyeuses qui indiquaient qu'on pouvait sortir de cette mélancolie. Et donc, voilà, je te téléphone près du métro Rome. C'était pour moi un fantasme, partir en Italie, le soleil, la joie.
Je te téléphone près du métro Rome. Paris sous la pluie me lance et m'ennuie. La Seine est plus grise que la Tamise. Ce ciel de brouillard me fout le cafard. Paris pleut toujours sur le Luxembourg. Il y a d'autres jardins pour parler d'amour. Il y a la tour de Pise, mais je préfère Venise. Viens, fais tes bagages, on part en voyage. Je te donne rendez-vous à la gare de Lyon. Sous la grande horloge, tu sais, près du portillon. Nous prendrons le train pour Capri la Belle, pour Capri la Belle avant la saison. Viens voir l'Italie comme dans les chansons. Viens voir les fontaines, viens voir les pigeons. Viens me dire je t'aime comme tous ceux qui s'aiment à Capri la Belle en toute saison. Paris, mon Paris. Au revoir et merci. Si on téléphone, j'y suis pour personne. Je vais dorer ma peau dans les pays chauds. Je vais m'ensoleiller près des gondoliers. Juste à l'aube grise, demain c'est Venise. Chante barcarolle, j'irai en gondole. J'irai sans sourire au pont des soupirs pour parler d'amour à voix de velours. Taxi, menez-moi à la gare de Lyon. J'ai un rendez-vous près du portillon. Je vais prendre le train pour Capri la Belle, pour Capri la Belle avant la saison. Passant par Vérone, derrière les créneaux, je vais voir le fantôme du beau Roméo. Et je vais dire je t'aime à celui que j'aime. Ce sera l'Italie comme dans les chansons. Taxi vite ballon à la gare de Lyon.
Didier Hérébon, dans Retour à Reims, vous racontez comme votre père, comme votre mère ont été victimes d'une grande violence sociale. Ils ont chacun essayé de leur côté de s'en sortir, de reprendre leurs études. Votre mère a essayé de quitter votre père a essayé de reprendre ses études et ça n'a pas marché. Comment vous, vous avez eu le sentiment à un moment que vous pouviez vous en sortir et partir en Italie avec Barbara ?
Enfin, c'est très compliqué à expliquer parce que mon livre était un livre sur les destins sociaux, comment on n'y échappe pas.
Et vous y avez échappé.
D'une certaine manière, j'y ai échappé. Et donc, j'ai voulu rendre compte de ça, comment un certain nombre de gens sont ce que Pierre Bourdieu appelle des miraculés du système scolaire. Comment il y a eu ce miracle qui s'est produit. Au début, quand je suis entré au lycée, j'avais beaucoup de mal à m'adapter, justement. Et j'étais sur le chemin de la déscolarisation, de l'auto-élimination du système scolaire qui frappe si souvent les enfants des classes populaires qui sortent du système scolaire parce qu'ils n'arrivent pas à y survivre, parce que le rythme scolaire n'arrive pas à y correspondre. Et je crois alors là que la découverte de ma sexualité déviante et donc l'intérêt pour la culture, la volonté de faire des études a été, en ce qui me concerne, très liée à mon homosexualité. Et je sais bien qu'on va dire que c'est des clichés, les gays, la culture, etc. C'est des clichés... Je ne dis pas que ça a une validité universelle, que toute personne, on peut être gay sans avoir fait des études, on peut être heureux sans avoir fait des études, on peut s'inventer une vie sans avoir fait des études, tout ça, je suis d'accord. Mais pour ce qui me concerne, parce que je différais de ma famille sexuellement, parce que je déviais, je différais, qu'il m'a fallu différer et diverger encore plus et m'inventer une vie différente, et que le biais... de l'adhésion à la culture a été pour moi ce vecteur-là, de la différenciation avec mon milieu. Et donc, je crois que le miracle scolaire, dont j'essaie de rendre compte dans ce livre, est lié à cette déviation. Donc, je pense que pour un garçon, on pourrait faire des analyses comme ça sur les lycées de banlieue aujourd'hui. On dit que les filles s'en sortent mieux parce qu'elles n'ont pas à jouer la masculinité. Et les garçons s'éliminent du système scolaire parce que... pour eux, ça serait passé pour des PD que de s'intéresser à la culture. Les filles n'ont pas ce problème. Et si des garçons s'en sortent, il y a toujours le soupçon qui pèse sur eux de ne pas être des vrais hommes. Et moi, je dois dire que pour ce qui me concerne, ça a été tout à fait vrai. Parce que je n'ai pas voulu correspondre aux normes de la virilité qui avaient cours dans mon milieu. Et j'ai même voulu échapper à ces normes de la virilité et de la masculinité ouvrière, populaire, que je crois, j'ai voulu justement lire des livres... et aimer des auteurs comme Duras, qui est évidemment, ou Beauvoir par la suite. Et je crois que là, mon intérêt pour les auteurs, pour les femmes écrivains, se joue peut-être là aussi.
Est-ce que le fait d'être homosexuel, marginal, est-ce que vous avez permis de faire des rencontres de gens qui vous ont aidé, que vous n'auriez pas rencontré autrement? C'est compliqué à dire, mais...
Ah oui. Bien sûr. L'homosexualité, parce qu'il faut rencontrer des partenaires, on va sur des lieux de drague, on rencontre des gens qui deviennent des partenaires ou qui deviennent tout simplement des amis ou des partenaires, puis des amis, etc. On rencontre des gens de milieux sociaux auxquels on n'aurait pas accès, qu'on ne rencontrerait pas s'il n'y avait pas ce lieu avec un certain brassage social. Il ne faut pas non plus mythifier, mais où des rencontres sont possibles. Et je dois dire que moi, c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai eu une brève liaison, qui était amie avec une journaliste de Libération. J'ai dîné avec elle, j'ai sympathisé avec elle. Elle m'a fait écrire dans Libération. Et c'est sans cette rencontre-là, qui est donc liée à, comment dire, on pourrait appeler ça une entraide gay, je ne sais pas comment on pourrait définir ça. Enfin, j'essaie d'analyser ça dans mon livre. C'est sûr que ça a été pour moi une possibilité professionnelle que je n'aurais pas eue autrement. Et une fois que quelque chose s'est enclenché, on peut, par des circonstances, de la volonté, des hasards, d'autres hasards, on s'installe dans un milieu, on y est connu, et puis on en fait partie. D'où mon installation dans la vie intellectuelle. Par ce biais-là, j'ai rencontré Michel Foucault.
Vous êtes devenu ami avec Michel Foucault.
Je suis devenu ami avec Michel Foucault, je suis devenu ami avec Pierre Bourdieu, j'ai rencontré Simone de Beauvoir, ce qui était pour moi un rêve, j'ai rencontré Marguerite Duras, j'ai rencontré Gilles Deleuze, Jacques Derrida, que j'ai bien connu par la suite, sans avoir les mêmes liens qu'avec Foucault ou Bourdieu avec eux. Mais disons que moi, le petit fils d'ouvrier de province, je me retrouvais au contact des plus grands noms de la vie intellectuelle française et internationale. Et donc, je n'ai jamais, à la fois j'en suis très heureux, très fier, mais je n'ai jamais oublié que c'est quelque chose qui ne m'était pas donné au départ. Et au fond, mon livre est une manière d'essayer de réconcilier mes deux vies. Cette vie-là, que j'ai vécue à Paris et que je vis toujours d'une certaine manière, même si beaucoup des gens dont je viens de parler sont morts. Et puis ma vie passée, celle de ma famille.
Vos parents, votre...
Faire le... Comment dire Pour vivre cette vie-là, il fallait une rupture entre cette vie-là nouvelle et mon passé. Et aujourd'hui, j'ai voulu refranchir, pour autant que ça soit possible, le fossé qui s'était instauré. Et ça n'a plus pu être possible, d'ailleurs, qu'après la mort de mon père. Oui. Mais en tout cas, refranchir, faire le chemin dans l'autre sens. Et de là où je suis arrivé, retourner de là où je suis parti. Donc une sorte de réconciliation avec ma mère, avec ma famille. Avec...
Vous êtes revenu à Reims après 30 ans d'absence. Vous n'aviez pas revu votre père
Je ne l'ai quasiment pas revu. Je l'ai revu à une ou deux occasions, oui. Aux obsèques de ma grand-mère, ou, mais quasiment pas, oui, pendant 30 ans. Et il est mort d'Alzheimer. Donc, ma mère l'a mis dans une clinique quand vraiment il n'avait plus ses facultés physiques et mentales. Et je ne suis même pas allé le voir à la clinique. Je ne suis pas allé à ses obsèques. Vraiment, et c'est le lendemain de ses obsèques que je suis allé voir ma mère. Elle a ouvert des boîtes de photos, comme je racontais au début du livre, et où je me voyais enfant, adolescent. Et ça a été un peu le déclic, parce que ce passé social m'a sauté au visage. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai mis ça tellement à distance? Pourquoi moi qui suis quelqu'un tellement à gauche, tellement politiquement ancré dans la gauche radicale, pourquoi il m'a été si difficile d'être proche personnellement et individuellement et psychologiquement des gens pour qui je me bats politiquement?
Elle vous a raconté votre père, et en particulier ce que votre père disait de vous en votre absence, sa fierté. Et je vous propose d'écouter Jean-Paul Sartre, parlant lui de son absence de père. C'est dans Un siècle d'écrivains de Bernard Rapp.
Je pense que ça a été très important de ne pas avoir de père. Je pense en particulier que un enfant subit toujours l'influence de son père sur le plan des professions, de la propriété, d'une foule de choses que le père a déjà hérité des autres et qui lui font comme un destin. Moi, certainement, je n'ai pas eu ça. Je n'ai pas été commandé, si vous voulez. Ce qui m'a sans doute donné mon sentiment de la liberté. Donc, je ne peux pas dire que mon père m'ait jamais manqué. Ça a été une photo pour moi dans la chambre de ma mère et c'est tout.
Vous, Didier Ribon, qu'est-ce qui vous reste de votre père? Vous racontez donc en retour à Reims, ce père ouvrier, sans culture, une certaine violence, et homophobe.
C'est très difficile parce que à la fin de mon livre, je cite un auteur anglais, Raymond Williams, qui est un sociologue mais aussi un romancier, qui écrit un roman justement sur son retour dans sa famille après être devenu professeur d'université. Et il dit, une fois qu'on a mesuré la distance, on met fin à l'exil. Et je cite cette phrase et aujourd'hui, je me dis, mais au fond, je ne suis pas certain d'être d'accord. Une fois qu'on a mesuré la distance, on a simplement mesuré la distance. Alors, est-ce qu'on met fin à l'exil? D'une certaine manière, oui, mais pas totalement. On n'abolit pas cette distance. Et au fond, si je pouvais dire, ça pourra paraître très violent à vos auditeurs, de ce qui me reste de mon père, rien. Et c'est ça qui est terrible, c'est que mon père, je ne lui ai jamais parlé, vraiment. J'aimerais aujourd'hui, c'est le point de départ de mon livre, j'aimerais avoir une conversation avec lui, qui me parle de sa vie, de ses expériences. Il ne m'a jamais parlé, je ne lui ai jamais posé de questions. C'est quelqu'un que j'ai voulu fuir. Alors, ce qui me reste de lui... C'est le fait qu'il a été une sorte de contre-modèle, contre Sartre dit quand on n'a pas de père, on n'a pas de quelqu'un qui commande et on est libre. Moi, ça a été le contraire. J'avais un père, j'avais quelqu'un qui me commandait et j'ai voulu être libre contre tout ce que mon père incarnait socialement, personnellement. Donc, ce qu'il me reste de mon père, rien si ce n'est cette envie de le fuir, mais aussi ce qui me reste de mon père, de ma famille, du milieu dans lequel j'ai grandi, c'est aussi cette conscience que les classes sociales existent. Et tant de discours aujourd'hui nous disent les classes n'existent pas, les classes n'existent plus. Je peux vous dire que quand je quitte le centre de Paris où j'habite pour aller là où habite ma mère aujourd'hui, et quand je vois ma mère qui a été ouvrière, quand je vois son corps de femme vieillissante, le corps abîmé, le corps perclus de douleur, et quand je compare à des gens que je connais dans les milieux intellectuels ou disons plus bourgeois, je peux vous dire que les classes sociales existent. Alors ce qu'il me reste de ma famille, c'est ça, la conscience que les classes existent et que elle s'imprime en nous et que beaucoup de mes réactions de timidité, de honte, d'incapacité à tout à fait entrer dans les rôles sociaux professionnels qui sont les miens aujourd'hui, je crois que ça me vient de ma famille et du fait que venant de là d'où je viens, je n'adhère pas tout à fait aux positions auxquelles j'ai accédé. Donc s'il me reste quelque chose de mon père, ça serait ça.
Vous n'en voulez pas aux classes, aux intellectuels, de ne pas comprendre, d'être aussi loin de la classe ouvrière?
Enfin, il y a des phrases très violentes dans mon livre, notamment contre Raymond Aron.
Oui, il y a Raymond.
Entre autres, quand...
C'est pas le seul.
C'est pas le seul, non. J'étais tombé sur cette phrase où il dit, aussi loin que je me souvienne, j'ai jamais eu le sentiment d'appartenir à une classe sociale. Il faut vraiment être un fils de la grande bourgeoisie pour ne pas avoir le sentiment d'appartenir à une classe sociale. Il y avait sans doute... chez lui une femme de ménage qui lavait la salle de bain pendant qu'il prenait des cours de tennis ou de piano, je ne sais quoi. Et elle, sans doute, sous les ordres de sa mère à lui, avait conscience d'appartenir à une classe sociale. Alors les intellectuels, souvent je suis exaspéré, oui, par les discours intellectuels, ou soit des gens qui parlent du peuple sans jamais avoir rencontré quelqu'un du peuple, justement pour exalter la force révolutionnaire du peuple, etc. Il faut vraiment, c'est un peuple mythifié, comment dire, une mythologie ouvrière. Pas des ouvriers, mais des gens qui parlent des ouvriers, ou bien des gens qui disent les classes sociales n'existent pas, n'existent plus, aujourd'hui il y a une égalisation des conditions, etc. Ce qui pour moi est un discours scandaleux, qui me révolte, m'indigne. Et ce livre et d'autres choses que j'ai pu faire sont une expression de cette indignation. J'ai voulu dire cette indignation, ma révolte contre tout ça.
Merci Didier Ribon. Je rappelle le titre de votre très beau livre, Retour à Reims chez Fayard. Cette émission a été réalisée par Michel Bedos avec Amel Kaldi et Yann Bouillot.
Que je chéris, chéris que j'aime. Et puis regarder pousser le lierre, la guitare en bandoulière. Même si je ne suis pas hippie, hippie, hippie chic, mais quand même. Je serai dilettantement de rire en sentant la mort venir. Du moins j'espère, j'espère. Je serai dilettantement partiel jusqu'à l'autre bout du ciel. Du moins j'espère, j'espère. Au revoir.